Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le 99.9. Si vous nous rejoignez maintenant, il est 18h30, vous êtes dans Décibel. No go, let's go. Et dans Décibel aujourd'hui, c'est le retour des étudiants de la fac. On est en compagnie de Carla.
Salut.
Bonjour. D'Alexandre.
Bonjour.
Et d'une petite nouvelle qui s'appelle
Cassandre. Bonjour.
Tu étais déjà venue d'ailleurs, il me semble.
Une fois.
Ok. Alors aujourd'hui, il n'y a pas photo. Vous parlez tous de littérature.
Exactement.
Et il y a un peu de BD aussi.
Oui.
Alors, qui commence ?
Est-ce que, comme d'habitude, je commence ou pas ?
Je suis le seul garçon, on va peut-être me laisser la parole en premier.
Oh là
allez,
là, le
je t'ai déjà dit. Tu...
Qui va se faire clasher d'entrée.
Oui, c'est ça, exactement.
Alors, bonjour à tous, je vais vous parler d'un de mes livres préférés que j'ai déjà lu au collège et que je redécouvre aujourd'hui. Il s'agit du célèbre roman d'aventure de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours. C'est un roman publié en 1872 qui raconte la course autour du monde de Phileas Fogg, gentleman anglais, qui a fait le pari d'y parvenir en 80 jours avec son serviteur français Passepartout. L'histoire, vous la connaissez sans doute, mais ce qui est intéressant, c'est le contexte historique du livre, puisque ce voyage extraordinaire est rendu possible grâce à la révolution des transports qui marque le 19e siècle et les débuts de la révolution industrielle. L'apparition de nouveaux modes de transport tels que le chemin de fer, la machine à vapeur et l'ouverture du canal de Suez en 1869 raccourcissent les distances ou du moins le temps nécessaire pour les parcourir. L'idée d'un voyage autour du monde en temps limité s'inscrit fortement dans le contexte de l'époque et était déjà populaire avant la publication du livre en 1872. Et d'ailleurs, Jules Verne, pour son roman, se serait même inspiré de l'homme d'affaires et voyageur américain, George Francis Train, qui effectua 4 tours du monde, dont un en 80 jours en 1870, c'est-à-dire avant la publication de son roman. En 1890, lors de son 3e tour du monde, effectué en 66 jours, il bat l'ancien record établi par Nellie Bly, première femme à avoir réalisé le tour du monde en 72 jours en 1889. Et tout comme le héros du roman, George Francis Train loua un train entier et fut emprisonné. La même année, en 1890, il déclara ainsi lors d'une conférence « J'ai fait 4 fois le tour du monde, je suis le roi, l'argonaute du voyage rapide, je suis le Phileas Fogg de Jules Verne, j'ai accompli le tour du monde en 80 jours, 2 ans avant qu'il n'invente un héros réussissant cet exploit. » Même s'il est vrai que pour l'époque c'est un véritable exploit, aujourd'hui le record du tour du monde à la voile est détenu par Loïc Perron qui a réalisé son parcours en 45 jours et une douzaine d'heures. Ça n'a rien à voir avec avant. Voilà pour le petit rappel historique et les records. Et maintenant je voudrais vous parler des thèmes abordés dans le roman. Tout d'abord il y a la fidélité, entre autres, au moment où Phileas Fogg renonce à son voyage pour aller au secours de Passepartout, qui est fait prisonnier par les Sioux. Il y a vraiment une amitié qui va se créer entre le serviteur et le maître. L'importance aussi de l'honneur et de la parole donnée, l'excentricité et la flegme, surtout dans le personnage de Phileas Fogg, qui est un riche bourgeois londonien, qui va parier la moitié de sa fortune, soit 20 000 livres, lors de ce pari fou qu'il a engagé avec ses collègues du Reform Club. La culture des peuples rencontrés, en particulier le sacrifice de Madame Awada avant qu'elle ne soit sauvée par Passepartout, et la mesure des distances à accomplir en un temps limité, les considérations tenues sur la diminution des dimensions de la Terre, et bien sûr, comme je l'ai dit, le développement des transports en commun. Alors, mes chers invités, est-ce que vous l'avez lu ce livre ? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Ouais. Ce que j'en ai retenu principalement, c'est l'avant-gardisme de Jules Verne quand même, parce que j'ai eu la chance d'aller à Amiens dans sa maison qu'il a eue quelques années, et vraiment tout le monde est d'accord pour dire que ben, même chez lui, il confectionnait des sortes de maquettes de choses qu'il était persuadé que ça existerait un jour, et pour la plupart d'ailleurs, il a eu raison, et il inventait, il donnait des chiffres qui semblaient... donner des chiffres totalement aléatoires d'azote et de cheminement qui pourraient faire une machine peut-être. Et ouais, c'est vrai que ça a donné forme à de jolies choses maintenant. Et du coup, c'est ça vraiment que je retiens de... outre l'histoire aussi qui est magnifique comme toutes les autres histoires, parce que franchement bah ça c'est celle qu'on retient principalement de Jules Verne, mais c'est vrai que les autres on les oublie un peu et qu'il y en a vraiment de très belles aussi.
Ouais, moi pour ma part j'ai lu il y a très très longtemps ce livre, mais moi j'avais un coup de cœur pour 20 milieux sous les mers, c'était l'un de mes préférés d'ailleurs à chaque fois que je lis ce bouquin je pense toujours à, il y a une petite animation à Disney à Paris où il y a justement on a la possibilité d'aller dans une reconstruction, je pense pas que c'est le sous-marin exact, mais il y a une reconstruction du sous-marin du capitaine Nemo. Et on peut d'ailleurs apercevoir hein, une immense pieuvre géant, comme dans le
Nautilus.
Livre.
Le Nautilus, exactement.
Et oui.
À côté des cris du Space Mountain, d'ailleurs. C'est ce que je retiens du Nautilus à Disney, moi, c'est les cris à côté.
Ouais. Moi, je suis un peu contre Disney et Jules Verne.
Mais tu es contre quoi d'autre ? Dis tout de suite, parce que à chaque fois, tu es contre tout.
Moi, pas aimé capitalisme de
Disney. Ah, bon, ça bref, tombe bien.
J'ai vu qu'il a fait les gros yeux ou qu'il a fait des gestes quand j'ai parlé de la révolution industrielle.
Non,
ça
non, pas, bah non, au contraire. Non, parce que je me demandais, en fait, est-ce que quand il l'avait lu au collège, il était déjà en train d'analyser ce
moi
genre. Ouais, c'est ton analyse
non,
date
non, non.
De
oui, voilà, elle date d'aujourd'hui.
Parce que quand on lit Jules Verne pour la première fois, c'est surtout
l'évasion. Oui, c'est surtout l'histoire.
Exactement. Pour moi, c'est voyage.
Personnellement, au début,
Terre,
j'avais pas compris du tout révolution industrielle, tout ça. Avant, ça m'était.
Ouais, voilà. Mais par contre,
mais le roman était écrit aussi pour.
C'est un sacré visionnaire.
Oui, ah oui, oui.
Très bon auteur de science-fiction.
Carrément.
Et un sacré géographe également. Enfin bref, il a fait quand même pas mal d'émules dans tout.
Il y a un vrai travail derrière. Voilà, il y a vraiment un vrai travail.
D'ailleurs, il faut savoir que le Tour du Monde en 80 jours a été adapté en dessin animé pour enfants. C'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petite
avec
et que
les
j'aimais
animaux.
Beaucoup. Oui,
ah
celui-là.
Oui, oui.
Ah, c'est pas ce que j'aime
ah,
le plus.
Ça, je connais pas, par contre.
Mais...
Ah,
si. Il est assez vieux.
Il paraît
comme...
même qu'il a été, adapté en cinéma. Il a été joué par Pierce Brosnan aussi.
Oui, oui, oui. Il y a aussi une adaptation avec Jackie Chan, mais
ouais, non,
je préfère
elle est
pas en
terrible,
parler.
Hein. Ouais. Ah, celle-là, elle est pas terrible.
Ah, bah, c'est un peu comme souvent les classiques. Hein. Les Trois Mousquetaires ont été aussi adaptés en dessin animé.
Souvent, les livres ont l'air quand même mieux que les films,
oui.
Parfois.
Moi, j'ai
oui.
découvert Voyage au centre de la Terre et après les films qui sont très très bons, les années 60, je ne sais plus qui exactement, dans quelle année il a été fait, mais très très bon film qui reflète bien l'ambiance du décor. Voilà, c'est bien Jules Verne, il faut lire Jules Verne, il faut que les enfants aujourd'hui lisent Jules Verne.
Ce soit très bien, oui.
Et qu'ils laissent tomber les jeux vidéo. Non, je rigole.
il faut savoir mélanger les deux,
voilà.
Faire la part
voilà,
des choses.
C'est ça, mais souvent, malheureusement, on a du mal avec les plus petits. Bref. Petite pause musicale peut-être.
Tout à fait.
Ouais. Bah alors là, accrochez-vous hein, les oreilles. Je vais sortir.
Qu'est-ce qu'il va nous proposer ?
Le hard rock féminin.
Yeah. Féminin,
féminin,
c'est bien
oui,
ça,
oui,
dis
oui,
donc.
Oui, j'ai ressorti les demoiselles qui s'étriplent les cordes vocales et ça tombe bien parce que c'est super intéressant et parfois on se rend compte que ben c'est peut-être même mieux que les mecs. Mais bon.
C'est bien de s'en rendre compte.
Donc du coup c'est Skew Siskin. Est-ce que ça vous parle ?
Du tout.
Ben c'est un
pas
groupe
du
de
tout.
Très intéressant d'ailleurs, le titre que je vous propose, ben, c'est le titre Shake Me qui est paru sur l'album qui s'appelle Album of the Year. Il n'y a rien de prétentieux là-dedans, c'est juste parce qu'elle est en duo avec Lemmy de Motorhead, rien que ça, qui a choisi le nom de l'album. Pour moi, il a dit c'est le meilleur album de l'année, donc eh ben voilà, elle l'a appelé comme ça. Donc tout de suite, ben, ça va bouger les cheveux, hein, je vous préviens.
T'en as plus ?
Oui, mais moi j'en ai plus. Les auditrices et auditeurs en ont encore, à mon avis. Alors ils peuvent même bouger les meubles hein, s'ils veulent. Hein. Allez, on se retrouve juste après ça.
Tchuss. We'll be right back.
Badaboum.
C'est, ça, c'est classe.
J'ai redécouvert ça avec, avec un certain intérêt et ça bouge bien. Donc, Q Siskin, extrait de l'album Album of the Year, en duo avec Lemmy. C'était le titre Shake Me. D'ailleurs, pour les aficionados de métal, de hard et de punk, ben, je vous conseille d'écouter l'Absinthe, mon émission. Allez, je fais un peu de promo. C'est le samedi à 20h parce que ben, c'est une spéciale. Voilà. Donc, depuis un certain moment déjà. Second point, littérature, avec cette fois-ci. Louis Ferdinand Céline.
Et ouais. Alors là, je vais vous parler de mon coup de cœur de toute ma vie littéraire. Et bien, c'est Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline. Alors tout le monde le rectifie ça à Céline. Céline qui n'est pas son vrai nom, je tenais à faire remarquer. Il a pris le nom de sa grand-mère, pardon. Par amour, hein, clairement. Et parce qu'aussi, il n'aimait pas son nom. Facilement.
C'est bien les mémés.
moi, ce serait beaucoup plus compliqué de prendre celui de ma grand-mère. Mais. Donc voilà, Voyage au bout de la nuit, hein, qui est son premier roman, publié en 1932, apparaît après vraiment de grandes difficultés à trouver une maison d'édition. Et il manqua de deux voix le prix Goncourt, mais il obtint le prix Renaudot. Ça va, on n'aura pas tout perdu. Le roman est surtout connu pour son style imité de la langue parlée et teinté d'argot, qui a largement influencé la littérature française contemporaine. Donc on peut lui dire merci. Il inspire principalement de l'expérience personnelle, de Céline à travers son personnage principal, Ferdinand Bardamu. Donc c'est donc un récit à la première personne dans lequel ce personnage, donc Bardamu, raconte son expérience de la Première Guerre mondiale, du colonialisme en Afrique, des États-Unis, de l'entre-deux-guerres et de la condition sociale en général. Il faut savoir que Louis-Ferdinand Céline a participé à la Première Guerre mondiale de 1914 et celle-ci lui a révélé l'absurdité du monde. Il ira même jusqu'à qualifier la guerre d'abattoir international en folie. Il a pas tort. Hein. Il expose ainsi donc ce qui est pour lui la seule façon raisonnable de résister à une telle folie, la lâcheté. Il est hostile à toute forme d'héroïsme. Celui-là même qui va de paix avec la guerre. Pour lui, donc, la guerre ne fait que présenter le monde sous la forme d'un gant qu'on aurait retourné et dont on ne verrait que l'intérieur. Et ce qui révèle la trame du livre, la mise en évidence de la pourriture. Néanmoins, Voyage au bout de la nuit constitue bien plus qu'une simple critique de la guerre. C'est à l'égal de l'humanité entière que le narrateur exprime son mépris. Pauvre ou riche, américain ou européen, blanc ou noir, peuple colonisateur ou colonisé, brave ou lâche, Céline n'épargne vraisemblablement personne. Donc j'ai choisi quelques adjectifs pour qualifier le roman. Je commencerai par antinationaliste. Parce que le patriotisme est, selon Céline, l'une des nombreuses fausses valeurs dans lesquelles l'homme s'égare. Cette notion est visible notamment dans la partie consacrée à la Première Guerre mondiale, au front, puis à l'arrière, où Céline s'est fait hospitaliser. Il y a également l'anticolonialisme, donc c'est surtout visible lors du voyage de Bardamu en Afrique. C'est le deuxième aspect idéologique de cette œuvre, et pas le moindre. Il qualifie le colonialisme de mal de la même sorte que la guerre. Il en condamne donc le principe, l'exploitation sur place des colons, dresse un portrait extrêmement caricatural des Occidentaux là-bas. L'anticapitalisme. Cela se repère naturellement dans la partie consacrée aux États-Unis, lors du voyage à New York, puis à Détroit, principalement au siège des usines automobiles Ford. Il condamne le taylorisme. C'est un système qui broie les individus réduits à la misère et nie même leur humanité, selon lui. En reprenant sur ce point quelques éléments de scène de la vie future de Georges Duhamel, si vous connaissez, qui a lu au moment de l'écriture du voyage... le regard qu'il porte sur le capitalisme est étroitement lié à celui qu'il porte au colonialisme. Et dernier point, anarchiste. À plusieurs reprises, l'absurdité d'un système hiérarchique est mise en évidence, à la guerre bien sûr, aux colonies, à l'asile psychiatrique, etc. L'obéissance est décrite comme une forme de refus de vivre, d'assumer les risques de la vie. Lorsque Céline défend son envie de déserter face à l'humanité entière, résolument décidée à approuver la boucherie collective, il affirme ainsi la primauté de son choix devant toute autorité, même morale. Cette vision donc teintée de désespérance se rapproche de la pensée nihiliste, pardon. Le roman se distingue également par son refus total de l'idéalisme. L'idéal et les sentiments, ça n'est que du mensonge selon lui. La question de Bardamu, donc le personnage principal, et par là même celle de Céline d'ailleurs, est de découvrir ce qu'il appelle la vérité. Une vérité physiologique, pas psychologique autant pour moi. qui affirme que tous les hommes sont mortels et qu'à l'avenir, les conduit vers la décomposition. C'est très gai. L'homme n'étant considéré que comme de la pourriture en suspens, je cite, c'est pourquoi l'œuvre peut apparaître comme totalement désespérée. Malgré un sujet dur abordé, ça reste mon coup de cœur de tous les livres que j'ai pu lire. Vous en pensez quoi? Parce que c'est vrai que ce livre apporte quand même pas mal de critiques. Hein.
Ouais, et il part un peu dans ce sens. Ce que je me demande, c'est comment, dans ce seul livre, on peut aborder autant de sujets. C'est quand même incroyable.
Par le voyage, parce que il refusait d'écrire sans connaître, hein, faut savoir, oui. Et qu'il a vraiment c'est voyagé. Bien. C'est-à-dire que quand il critique l'esclavagisme en Afrique, il y est allé, il a vécu la guerre, il a vécu les usines Ford, le travail à la chaîne, tout ça. Il a connu, vraiment, il critique vraiment ce qu'il a, donc il est hyper objectif. Parce qu'il critique aussi bien les noirs comme blancs, comme il dit. Enfin, ouais. Voilà, il critique.
D'ailleurs,
il
a été souvent controversé, personnage qu'on disait soi-disant raciste, etc.
Ouais. Ce qui est faux, parce que.
Il y a les pour, il y a les contre. Céline ne laisse jamais indifférent, et à mon avis, c'est ça qui est surtout important.
Mais c'est très important, ouais. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il a eu du mal à être publié, alors que finalement, c'est super intéressant parce qu'il prend aucun parti, il fait un débat seul, et c'est super intéressant à lire. Vraiment.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce que c'est son courant de pensée et ses idéaux, c'est quoi.
Bah, lui, en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il aime constater. Donc, lui, il prend pas parti. Il regarde.
C'est un observateur.
Voilà, c'est un grand
c'est
observateur.
C'est quand même un regard noir qu'il dresse.
Il a un regard noir, mais c'est parce que là, ce qu'il a vécu en même temps, trouver côté positif de la guerre, vas-y.
Non, oui, non.
Tu vois ?
Non, mais d'accord. Mais
il parle de sujets qui sont déjà noirs de base. Donc, c'est très dur de trouver le bon côté
après,
de
c'est
ça.
Aussi, il a voyagé pendant la guerre, c'est ça ?
Oui, il a fait la guerre et après, il a beaucoup voyagé, mais jusque très tard. Hein, il a mis beaucoup de temps à l'écrire, ce livre.
Ouais.
Faut savoir ça. Et puis, il est très observateur. Il parle pas beaucoup. Il est quelqu'un qui regarde et qui après met des mots sur ce qu'il a vu et toujours en gardant l'esprit critique et pas prendre parti surtout. Enfin, même si je pense qu'il a son avis, mais vraiment personne l'a.
Je pense
l'a
qu'il
jamais
prend quand même parti si. Il dit que.
Bah après, forcément, son grand parti, c'est dire la guerre, c'est mal, en fait. Oui. Déjà, ça, de base, je pense que ça, c'est parti d'à peu près tout le monde. Bah,
je crois que tout le monde est d'accord.
Et mourir, c'est nul.
Même sur le
voilà, mourir, c'est nul, l'homme est bête face à certains trucs. Voilà. C'est. Bon, voilà, c'est.
Après, moi, je trouve qu'il n'est pas très objectif, quand même, sur le taylorisme. Parce que, et même sur le capitalisme en général. D'accord, il faut bien sûr pointer les effets négatifs du capitalisme. Oui, là, il le fait, et c'est très bien. Mais il ne dit pas aussi que ça a changé une société, que ça a apporté un nouveau mode.
C'était obligé de changer la société, puisque n'étant pas capitaliste avant, la société n'a pu que changer, mais pas forcément bien.
Mais on peut aussi ne pas être d'accord. Mais après, si tu veux vraiment, je te prête le livre et lis-le, et là tu verras tu verras, franchement, vraiment, il n'y a aucun, vraiment très peu de parti pris.
Ouais. Et moi, je te conseille Mort à crédit, qui est un très très très
bon livre. Ah oui, je l'ai vu aussi.
Allez, petite pause musicale vite fait de 2 minutes, puis après on retrouve Cassandre qui nous parle BD. On reste dans les voix féminines, cette fois-ci avec un groupe de punk des années 90, L7, donc avec l'un des titres phares de l'album Slap Happy. Ça s'appelle On My Rocking Machine et évidemment, sortez les motos et allez très très vite.
Put it down, make it clean.
L7 on my rocking machine, tiré de l'album Slap Happy. Et on retrouve Cassandre pour de la BD.
Tout à fait. Alors moi, je vais vous parler d'une BD française qui date de 1995. Il s'agit de la BD de Cap et de Croc, qui a été scénarisée par Alain Hérol et dessinée par Jean-Luc Masbou. Alors, l'intrigue se passe au XVIIe siècle et on débute l'histoire avec beaucoup du théâtre en plein air. On commence d'ailleurs par un extrait des Fourberies de Scapin, où on y fait la rencontre de deux gentilshommes, Don Lope de Villabos y Sangrin, un loup espagnol et impulsif, je m'excuse pour mon accent espagnol, et un Armand Rénal de Maupertuis, un renard gascon et poète. L'histoire se développera sur une chasse au trésor qui plongera nos héros dans un monde mélangeant fantaisie et science-fiction, puisqu'ils iront même visiter la Lune, où ses habitants sont des amoureux de poésie et de théâtre. Alors, il faut savoir que cette BD est née à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême. C'est là où les deux auteurs se sont rencontrés. Et les deux auteurs étaient des fervents amoureux des jeux de rôle. Et ils ont d'ailleurs fait beaucoup de jeux avec d'autres étudiants qui sont des futurs dessinateurs d'ailleurs. Et durant ces jeux, ils ont créé Conte et Racontard, qui est un jeu de rôle qui mélange cap et épée, aventure, légende et contes de fées. Et c'est dans ce monde que Jean-Luc Masbou jouait un loup et un de ses amis un renard. Et les deux personnages étaient si complémentaires qu'ils en firent une BD. Donc c'est là où est né De Cap et De Croc. Il faut savoir que cette BD a de nombreuses références littéraires, notamment les pièces de Molière, mais également Cyrano de Bergerac avec le personnage d'Armand qui aime beaucoup faire des poèmes tout en se battant à l'épée. Et il faut savoir aussi qu'il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle le maître d'armes et qui ressemble beaucoup à Cyrano, notamment avec son nez, comme est cité dans la pièce d'Edmond Rostand. Ensuite, il y a également Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et il y a aussi La Fontaine, notamment avec l'idée des animaux parlants. Et il y a aussi des extraits des poèmes du poète. Il y a également le roman de renard, notamment avec le nom de Don Lope de Vega y Sangrin. On peut faire référence à Isengrin, le loup ami de renard. Et également, il faut savoir que Armand de Maupertuis, c'est le nom de la forteresse dans laquelle habite le renard du roman. Il y a également de la science-fiction, notamment dans les derniers tomes. Les personnages se déplacent en bateau volant dans l'espace. Et ça m'a beaucoup fait penser... Je suis désolée, je vais aborder Albator. Disney. Ah. Albator, oui, également. Mais il y avait... Oui.
Ah bah, grand fan.
Ah, évidemment. Il y a Albator, mais il y a aussi la planète au trésor de Disney. C'était oui. Ces deux mondes-là qui m'ont beaucoup fait penser à...
Je connais moins.
c'est très steampunk.
C'est
mais
une très belle histoire. Elle est très peu connue, pourtant.
Oui, c'est moins Disney que les Disney.
Oui.
D'accord.
Vraiment, regarde-le.
Qu'est-ce qui peut être moins Disney que les Disney?
Voilà, toi tu restes donc bloqué dans le Disney, clairement c'est moins, ça se voit pas trop que c'est Disney.
Ouais, franchement, ouais, c'est okay. Une très belle histoire, moi c'était un de mes Disney préférés quand j'étais petite, enfin c'est toujours
avec
un
petit
Disney
côté préféré. Steampunk qui m'a rendue amoureuse.
Et autre référence à la science-fiction, il y a le livre Histoire comique des États et Empires de la Lune de Cyrano Bergerac, le vrai. c'est une auto-fiction et un des premiers récits de science-fiction, ça date du XVIIe siècle si je ne me trompe pas, et l'auteur part en voyage sur la Lune et le Soleil, où comme dans la BD, on paye en verre. C'est-à-dire que tu ne payes pas en argent, tu dois écrire un poème pour pouvoir...
J'allais dire, c'est sympa. Hein.
J'avais compris.
Vive les alcoolos, hein. Les SDF seraient riches.
Non, en verre poétique. Alors, il faut savoir, pour moi, c'est un petit bijou, déjà par son écriture. C'est une magnifique écriture qui mélange la prose et les alexandrins. Je vais d'ailleurs vous lire un passage. Il est court. Un passage du maître d'armes. Votre éloquent acier taciturne et flandrin amputa de six pieds mon alexandrin. Puisqu'on veut m'ôter les mots de la bouche, tâchons de choisir ceux qui font mouche. Et pour ne pas trop perdre pied, chaussons la botte qui sied au vers trisyllabique, maître fatidique et fort étroit.
Ah ouais.
Wow. Un poème qu'il dit tout en se battant avec Don Lope. Alors, autre petite particularité, cette BD est magnifique. Je vais d'ailleurs vous passer J'ai amené quelques tomes. Bon, les auditeurs, ça sert à rien, mais je vous dis, c'est très beau. Il faut savoir que les dessins sont absolument splendides. Ce sont des dessins qui mélangent crayon, encre de Chine et peinture acrylique. C'est un petit bijou, une œuvre d'art, vraiment. Il faut savoir que le dessinateur met beaucoup de temps. Il peut passer 2 jours sur une seule bulle. Tellement que c'est beau. Cette BD, en fait, a ravivé mon amour de la BD parce qu'à cause de mes études, j'avais mis un peu de côté à la bande dessinée. Et quand je suis arrivée en première année, ma mère m'avait emmenée au festival de la BD de Perros-Guirec et je suis tombée sur cette BD. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour elle.
Et donc, voilà. C'est les éditions, c'est
édition Terre de Légende.
Terre de Légende, d'accord.
Dommage qu'il n'y ait pas de caméra pour montrer les images parce que c'est très beau. C'est, vrai.
C'est vraiment très, très joli. Et... voilà, sinon, je peux vous parler d'un de mes personnages préférés qui... Bon, j'aime beaucoup Armand, parce que j'aime... En fait, j'ai une grande passion pour Cyrano de Bergerac, et Armand, il lui ressemble beaucoup, notamment pour l'idée de créer de la poésie tout en se battant. Il y a également le maître d'armes, comme je le disais tout à l'heure. Et j'aime beaucoup également... il y a un petit lapin qui accompagne nos deux héros, qui s'appelle Euseb. Il faut savoir qu'ils l'ont rencontré sur une galère. Euseb était un esclave galérien qui a été garde du cardinal. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de références à Alexandre Dumas. Et il faut savoir que ce petit personnage, eh ben... les auteurs adorent leurs personnages, mais c'est vrai que Zeb, les auteurs ont eu un moment, ils ont voulu avoir du recul avec Zeb parce que c'est un des personnages qui a eu le plus de succès et qui faisait un peu de l'ombre à Armand et Don Lopé, et ce qui fait que Zeb disparaîtra pendant un tome entier. Il fut avalé par un monstre marin. Donc voilà, mais il revient beaucoup plus tard.
Et il est mignon, ça y est, j'ai trouvé le lapin.
Adorable.
Il est très mignon. C'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure, le lapin.
Il faut savoir que toute l'histoire qu'on va suivre, l'histoire principale, se déroule en 10 tomes. Il faut savoir qu'il
y a... Ah oui, 10 tomes quand même.
Oui, 10 tomes. Et les deux derniers se concentrent sur le passé de Zeb. Donc voilà, et je voulais terminer pour vous dire que si vous aimez les jeux de rôle et la belle écriture, je vous conseille Reflets d'acide, une saga MP3 créée par JB qui est en 2004, et je trouve que c'est un peu le même univers d'écriture, parce que ça raconte autour de textes en vers les aventures d'un petit groupe, et ça a aussi été adapté en bande dessinée. Donc voilà.
Ben voilà, on sent ta passion, tu as certainement dû communiquer aux auditrices et aux auditeurs l'envie de lire ces BD. Tu peux nous rappeler vite fait les éditions, où est-ce qu'on peut, trouver ça un peu partout, dans toutes les bonnes boulangeries?
Oui, ça se trouve très facilement, c'est une BD qui a eu
beaucoup de succès.
Oui.
Ah ben voilà, fallait pas le dire.
Alors c'est
Nous ne faisons pas de publicité.
Alors c'est Deux Capes et Deux Crocs, d'Erol et de Masbou aux éditions Terre de Légende. Et apparemment c'est une BD qui a été adaptée au théâtre aussi par la compagnie Les Mille Chandelles. Alors je ne sais pas si c'est encore produit, mais si jamais vous avez l'occasion d'y aller, allez-y.
Voilà. Surtout pour les amoureux du dessin encore fait main, parce que ça se trouve, c'est de plus en plus rare.
Donc pour tout... ces aficionados de BD dans toutes les bonnes boulangeries et pâtisseries entre les mille feuilles. Voilà. Allez, on va se quitter toujours en musique, toujours en grande pompe, et toujours en féminin et toujours aussi en hard rock.
Mais décidément, tu t'es mis du côté des filles aujourd'hui.
Mais pas spécialement. C'est une thématique. Voilà,
c'est
tout
très
simplement.
Bien.
Et cette fois-ci, c'est les Crucified Barbara. Avec l'un des titres phares de leur album The Midnight Chase. Et le titre que je vous propose, tout simplement, je l'ai oublié parce qu'il n'apparaît pas à l'écran. C'est pas grave, je vais le retrouver tout de suite.
Ça, c'est beau.
C'est The Crucifier. Donc on se quitte, Carla, Cassandre, Alexandre. Merci beaucoup. À jeudi prochain ou pas?
À jeudi prochain, oui.
Ouais. Oui,
normalement.
Ok, ça marche alors. Et bonne soirée à tous sur le 99.9.
Bonne soirée.
Ciao.
Salut. You
down now.